Vous écoutez France Culture.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la musique, Carole Beffa.
Et à la réalisation, François Connac. Au temps où j'écoutais mûrir les mirabelles, je voyais le soleil caresser tous les fruits, dorer toutes les rondeurs, polir toutes les richesses. Le vert ruisseau dans sa légère cascade ébranlait les cloches de l'ancolie, un son bleu s'envolait, la grappe des fleurs lançait sans fin des trilles dans le ciel bleu. L'eau et les rêves de Gaston Bachelard n'est ni un récit, ni un roman, ni un essai, ni même un long poème. Mais une étude qui, aussi musicale que silencieuse, combine à merveille ces quatre éléments. Le poète y trouvera un souffle, l'amateur un réconfort, le scientifique un répit, le philosophe une source vive. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue chez Gaston Bachelard, dans l'âtre et les divagations d'une philosophie de la meilleure eau.
C'est en livre de poète qu'il convient le mieux de lire L'eau et les rêves. Il y a certes les nombreuses citations de Paul Claudel à Edgar Poe, qui cadencent les 8 chapitres du livre et lui donnent cette coloration si littéraire. Mais il y a aussi tout le charme des premières pages, où le nous méthodique de l'épistémologue laisse poindre une première personne infiniment poétique, absorbée par la profondeur des ruisseaux champenois et l'odeur de la menthe aquatique.
Quel est l'homme poétique qui ne répondrait pas à l'appel des sources et des fontaines, qui ne garderait pas les souvenirs émus de l'étang et de la rivière? Cet accord unanime de toutes les âmes poétiques est déjà un gage de la réalité de notre problème, de l'adhésion que nous proposons à une poétique des éléments. Nous allons voir que l'attachement que nous avons à la beauté de l'eau est fort de mille liens. Nous allons voir s'accumuler les attraits les plus divers, les attraits les plus contraires, de sorte que notre amour pour l'eau est peut-être le plus ambivalent des amours.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola. Et bonjour, bonjour à Carole Beffa, notre compagnon silencieux, notre frère d'âme, pour cette émission qui vous immerge et vous immergera, on l'espère, et nous immergera sans nous noyer, dans la pensée de Gaston Bachelard.
Oui, d'ailleurs, je ne savais pas par quoi commencer entre la voix de Gaston Bachelard et puis Carole Beffa au piano. Je pense qu'il faut encore une fois remercier Carole Beffa parce que le plaisir d'être accompagné comme ça au piano et qui sert si bien le texte de Bachelard. Hein, j'ai toujours pensé que, je sais pas, que l'improvisation au piano était comme la matérialisation vraiment de la rêverie poétique.
D'autant que l'improvisation n'est pas une école du n'importe quoi. Quand on improvise, et on en a déjà parlé dans le Gai Savoir, Paola, quand on improvise, on ne dit pas n'importe quoi. Quand on improvise, on éprouve en soi une nécessité propre, une nécessité singulière. Ce paradoxe d'ailleurs propre à l'improvisation permet, en un sens peut-être, d'entrer, à pas compter délicatement, dans la pensée poétique de Gaston Bachelard, qui expérimente avec son discours, poétique, avec le versant poétique de sa philosophie, dont on pourra se demander s'il faut l'opposer au versant épistémologique ou s'il en est le prolongement ou bien le parallèle vibrant. Le discours sur l'improvisation est une façon d'entrer peut-être dans la poétique de Bachelard, dans la mesure donc où il déploie une nécessité qui n'a rien à voir avec la rigueur scientifique du rationaliste appliqué qu'il est par ailleurs, si j'ose dire.
Oui, en tout cas pour moi qui n'ai lu que L'eau et les rêves de Bachelard, il est presque vraiment difficile d'imaginer un autre Bachelard tant cette écriture si belle, si rythmée, on a du mal à la voir rigoureuse. Et puis d'ailleurs, je voudrais pointer peut-être une difficulté, c'est que c'est toujours le problème avec ces philosophes qui écrivent si bien comme Merleau-Ponty ou Bergson ou Bachelard, c'est qu'il est presque difficile parfois d'en saisir le propos tant on est un peu subjugué par l'écriture.
Je suis né dans un pays de ruisseaux et de rivières, dans un coin de la Champagne vallonnée, dans le Valage, ainsi nommé à cause du grand nombre de ses vallons. La plus belle des demeures serait pour moi au creux d'un vallon, au bord d'une eau vive, dans l'ombre courte des saules et des osières. Quand octobre viendrait avec ses brumes sur la rivière.
Ses reflets et dans sa profondeur, dans son repos et dans son tumulte, dans sa substance et dans sa force. Les dialectiques se multiplient au point qu'il faudrait une véritable encyclopédie de l'eau pour les analyser toutes. Le monde des reflets, que serait-il sans le miroir des eaux dormantes? Les hommes eussent-ils inventé des miroirs si la surface d'une eau tranquille ne leur avait pas rendu si fidèlement leur image? La psychanalyse a justement nommé, à partir d'une telle image passionnément contemplée, le complexe de Narcisse.
Alors, Raphaël, on a entendu Bachelard parler de la nécessité de produire une encyclopédie de l'eau. Est-ce qu'on peut parler de ça pour L'eau et les rêves, puisque dans ces 8 chapitres, sans compter l'introduction et la conclusion, il y a justement comme ça une sorte de typologie des eaux qui commence par les eaux superficielles, les eaux brillantes, puis ensuite qui termine par l'eau violente, etc.
Oui, il y a 8 chapitres. Si on accepte le 9e où il donne la parole à l'eau. Or, c'est important ça, parce que pour Bachelard, quand le poète parle, Bachelard ne cesse de se demander si quand le poète parle, c'est lui qui parle ou si c'est le monde qui parle à travers lui. Et où on retrouve d'ailleurs le sens de ce qu'on pouvait dire de l'improvisation, puisque improviser, c'est éprouver en soi une nécessité dont on n'est finalement que l'interprète. Alors il y a effectivement 8 chapitres. Les titres des chapitres sont en eux-mêmes tellement parlants. Vous avez les eaux claires, les eaux printanières et les eaux courantes, les conditions objectives du narcissisme, on l'a vu, on l'a entendu parler de Narcisse, on l'a presque vu le faire d'ailleurs. Les eaux amoureuses, premier chapitre. Deuxième chapitre, les eaux profondes, les eaux dormantes, les eaux mortes. C'est là qu'il parle beaucoup d'Edgar Poe. Troisième chapitre, le complexe de Caron, le complexe d'Ophélie, puis les eaux composées, puis l'eau maternelle et l'eau féminine, puis la morale de l'eau entre pureté et purification, puis la suprématie de l'eau douce, qui est peut-être le chapitre le plus terrifiant. Et enfin, l'eau violente, qui, comme son nom ne l'indique pas, est le chapitre, à mon avis, le plus serein. Effectivement, il y a une typologie de l'eau, comme ça, répartie par chapitre. L'idée d'encyclopédie ne me convient pas, parce que, enfin, je ne parlerai pas d'encyclopédie dans la mesure où, même étymologiquement, hein, l'encyclopédie prétend à l'exhaustivité. Et ici, Bachelard prétend davantage à la dérive, à la digression, mais à une digression qui est encore une fois rigoureuse. On a entendu Bachelard, et c'est très frappant parce que les causeries de Bachelard, dont on a extrait donc quelques passages pour les donner à entendre à nos auditeurs, les causeries de Bachelard sont des textes que manifestement Bachelard lisait lui-même. De sorte que sa voix a à la fois le grain délicat, délicieux, champenois, bachelardien, bien connu, cette voix qui roule. On a vraiment le sentiment de l'eau qui roule sur les cailloux et qui fait rouler les cailloux en roulant sur eux. Et dans le même temps, c'est un exposé qui a la rigueur d'un texte lu. Et Bachelard est malgré tout sur ces deux registres. Mais ce qu'il emporte quand même, l'impression qu'il emporte, c'est le sentiment d'une dérivation, d'une dérive au sens littéral et aquatique du terme.
Il y a une dérive, mais il y a quand même, on sent en tout cas dans L'eau et les rêves, un programme, puisque, et il l'annonce dans l'introduction, il parle vraiment au futur, nous verrons d'abord que, ensuite cela nous amènera à voir que.
Et il y a un nous.
Oui, il y a un nous.
Il y a un nous dissertatoire, hein, ce qui n'entame pas la poésie du propos.
Oui, et en tout cas, on l'a vu quand vous avez énoncé les chapitres, il part d'abord de la surface de l'eau pour arriver à sa profondeur, et il dit un moment dans l'introduction, il dit « Mais répétons-le, c'est en se tenant assez longtemps à la surface irisée que nous comprendrons le prix de la profondeur. » Et ça m'a fait penser à cette phrase qu'on cite souvent dans Le Gai Savoir à propos de Nietzsche, des Grecs qui sont superficiels par profondeur. Et on retrouve un peu quelque chose comme ça dans le programme de Bachelard d'études de l'eau.
Oui, et pourtant, le propos de Bachelard, si l'on suit son propos dans sa rigueur, dans cette rigueur poétique, l'oxymore est là. La question de la rigueur n'est pas un problème, n'est pas un oxymore quand il s'agit du rationalisme appliqué, de la philosophie du nom, de ce qu'il appelle l'obstacle épistémologique, de toute la pensée épistémologique de Bachelard qui est remarquable et qui fait droit d'ailleurs, hein, qui refuse les tables rases. Bachelard est un anti-cartésien, frénétique presque, donc il n'est pas du tout dans la table rase, mais dans le même temps il est d'une extrême rigueur. Et cette rigueur demeure à l'intérieur de son ambition poétique, et il est vrai que dans le programme qu'il se donne, qu'il annonce dans l'introduction et qu'il déploie dans tout son livre, il y a d'abord l'ambition paradoxale, avec ce que vous dites, d'écarter les images superficielles. Mais en fait, ce qu'il appelle les images superficielles, et c'est là que Bachelard peut être nietzschéen comme en d'autres endroits, les images superficielles de Bachelard, ce sont les images qui se prêtent à ses yeux à une rationalisation trop facile.
Trop scolaire.
Oui, trop scolaire, trop évidente. C'est ce qu'il appelle la mythologie scolaire qui associe une ondine à toute source, une sylphide à tout frémissement de l'air. Et à ces images-là, Bachelard oppose les vraies images, dit-il, celles dont nous vivons la vie, celles dans lesquelles l'imagination travaille une matière, obéit à un dynamisme qui lui est propre. Et donc il y a une quête de la profondeur chez Bachelard, mais cette quête de la profondeur commence par stigmatiser, au fond, le caractère superficiel de ces généralisations abusives et, au fond, conceptuelles qu'on a voulu faire autour de l'eau, de ces lieux communs autour de l'eau, qui prétendent pourtant à une certaine profondeur spéculative, mais en réalité, c'est une profondeur scolaire. Et à cette profondeur scolaire, il substitue une profondeur d'association, une profondeur qui mêle l'eau et le lait, mêle, par exemple, on l'a entendu parler de Narcisse, la psychanalyse, mais non pas au rêve, mais à la rêverie. Et ça, c'est essentiel chez Bachelard. Un tout petit mot là-dessus, Paola, puis après on continue, hein. L'homme bachelardien est diurne et nocturne à la fois. C'est vraiment le rêveur. C'est vraiment c'est une philosophie du rêveur. C'est-à-dire que c'est une philosophie, et on en a déjà parlé ici, qui emprunte au rêve sa puissance divinatoire et à la veille sa capacité de restitution de ce que le rêve nous a montré. Il n'y a que la rêverie qui tienne ce juste milieu entre l'être et le savoir. C'est le diurnambule, c'est l'homme qui est fait de jour et de nuit. Voilà. Bachelard s'est mélangé sans pour autant qu'il se noie l'un dans l'autre, le jour et la nuit.
la psychanalyse, en multipliant les explications psychologiques, a, en cette occasion, intellectualisé les symboles. Elle a détendu les liens qui unissent les symboles secondaires aux symboles primitifs. Bref, la psychanalyse nous a écartés de la méditation de l'image primitive. Elle a, il faut bien le dire, dépoétisé l'image poétique fondamentale.
On parle aujourd'hui essentiellement de l'eau et les rêves, mais Bachelard a consacré d'autres études aux éléments, dont l'air et les songes, et la psychanalyse du feu aussi.
Oui, et alors il y a les quatre éléments chez Bachelard, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, chez Bachelard, dans la poétique de Bachelard, chaque élément a son registre spécifique. Nous parlons de l'eau aujourd'hui, il dit ceci... Pour qu'une rêverie se poursuive avec assez de constance pour donner une œuvre écrite, pour qu'elle ne soit pas simplement la vacance d'une heure fugitive, il faut qu'elle trouve sa matière. Il faut qu'un élément matériel lui donne sa propre substance, sa propre règle, sa poétique spécifique. De sorte que, pour Bachelard, par exemple, l'eau est un élément plus féminin et plus uniforme que le feu. Et il le dit en un sens tout à fait fondamental. Et ce que je voulais vous dire, j'étais sur le point de l'oublier, c'est qu'il faut distinguer parmi les quatre éléments le feu, l'air et l'eau, qui vont toujours par couple chez Bachelard. On n'a jamais l'association des trois ensemble. Il y a toujours... Ça marche par couple. Vous avez le feu et l'air, vous avez l'air et l'eau, mais vous n'avez jamais les trois qui marchent ensemble. Et puis surtout... Tout cela féconde le grand corps massif de la Terre. Donc il y a une singularité du quatrième élément chez Bachelard qui les rassemble tous en un sens, qui les anastomose, comme on dit, mais qui s'en distingue comme une totalité acquise, se distingue de la somme des parties qui la composent.
Oui, il y a un moment que l'eau est le sang de la Terre, lorsqu'il fait toute cette comparaison entre le sang obscur et l'eau. Mais l'eau a aussi la singularité d'être un des éléments... au départ, le moins propice à la rêverie. Il dit que l'eau est trop légère, trop fugitive. Et il dit même que, au tout début du premier chapitre, que les eaux ne construisent pas de vrais mensonges à propos des eaux superficielles.
Donc... Oui, il le dit quand il fustige ce qu'il appelle la poésie subalterne. C'est le premier chapitre, les eaux claires. Rappelons le titre, c'est si beau. Les titres des chapitres de Bachelard. Les eaux claires, les eaux printanières et les eaux courantes, les conditions objectives du narcissisme, les eaux amoureuses. Eh bien, dans ce premier chapitre, Bachelard s'en prend à ce qu'il appelle les poésies subalternes, c'est-à-dire à celles qui opèrent des passages de valeurs sensibles à des valeurs sensuelles, qui étudient l'eau dans sa parure, qui décrivent l'eau comme ce qui se voit et ce qui se montre. C'est Narcisse et c'est Mallarmé aussi. C'est ce qu'il appelle, on découvre des mots quand on lit Bachelard, le pancalisme. Vous savez ce que c'est le pancalisme, Paola? Le pancalisme, kalos en grec, c'est le beau. Et le pancalisme, c'est le fait de tout considérer sous l'angle du beau. Et il associe au mot de pancalisme le mot de catoptromancie, qui est le fait de repérer la divinité dans les images d'un miroir. Et à cela, il prolonge sa réflexion dans ce premier chapitre en digressant sur le narcissisme tranquille des fleurs. Et il dit un moment à propos de Shelley, « L'œil gracieux d'une violette regarde le ciel azuré jusqu'à ce que sa couleur devienne semblable à ce qu'elle regarde. » Et il parle même d'une sexualisation artificielle et pédante. Bref, il est dans l'ambition de se défaire de cette eau de surface. De cette eau de surface, c'est-à-dire des rêveries ordinaires, de l'eau superficielle pour accéder dans un second chapitre aux eaux profondes, aux eaux dormantes, aux eaux mortes, à l'eau lourde dans la rêverie d'Edgar Poe.
L'eau de Bachelard est essentiellement malheureuse. C'est quelque chose qu'on découvre rapidement, passé le premier chapitre, et même dès le premier chapitre avec le complexe de Narcisse, enfin avec Narcisse. C'est une eau malheureuse, il dit dans le premier chapitre, cette phrase qui est si belle. Attendez, je ne suis pas sûre, mais qu'il parle de la peine infinie de l'eau, c'est ça, Raphaël?
Il dit la peine de l'eau est infinie.
Si nous pouvons convaincre notre lecteur qu'il y a, sous les images superficielles de l'eau, une série d'images de plus en plus profondes, de plus en plus tenaces, il ne tardera pas à éprouver dans ses propres contemplations une sympathie pour cet approfondissement. Il sentira s'ouvrir sous l'imagination des formes, l'imagination des substances. Il reconnaîtra dans l'eau, dans la substance de l'eau, un type d'intimité. Intimité bien différente de celle que suggèrent les profondeurs du feu ou de la pierre. Il devra reconnaître que l'imagination matérielle de l'eau est un type particulier d'imagination. Fort de cette connaissance d'une profondeur dans un élément matériel, le lecteur comprendra enfin que l'eau est aussi un type de destin. Non plus seulement le vain destin des images fuyantes, le vain destin d'un rêve qui ne s'achève pas, mais un destin essentiel qui métamorphose sans cesse la substance de l'être. Dès lors, le lecteur comprendra plus sympathiquement, plus douloureusement, un des caractères de l'héraclitéisme. Il verra que le mobilisme héraclitéen est une philosophie concrète, une philosophie totale. On ne se baigne pas deux fois dans un même fleuve parce que, déjà dans sa profondeur, l'être humain a le destin de l'eau qui coule. L'eau est vraiment l'élément transitoire. Il est la métamorphose ontologique essentielle entre le feu et la terre. L'être voué à l'eau est un être en vertige. Il meurt à chaque minute. Sans cesse, quelque chose de sa substance s'écoule. La mort quotidienne n'est pas la mort exubérante du feu qui perce le ciel de ses flèches. La mort quotidienne est la mort de l'eau. L'eau coule toujours, l'eau tombe toujours. Elle finit toujours en sa mort horizontale. Dans d'innombrables exemples, nous verrons que, pour l'imagination matérialisante, la mort de l'eau est plus songeuse que la mort de la terre. La peine de l'eau est infinie.
Vous voyez, Paola, à quel point Bachelard est un philosophe présocratique, au fond, un philosophe antique. Bachelard, c'est Héraclite. D'abord, c'est Héraclite parce que Héraclite est le penseur du combat comme source de la vie, c'est le penseur agonistique, comme on dit. Héraclite parce que Héraclite est le penseur du devenir et que Bachelard, ici, avec l'eau, pense le devenir, alors que avec Edgar Poe, il pensera ce qu'il appelle les eaux silencieuses, eaux sombres, eaux dormantes, eaux insondables, les méditations de la mort. Il distingue Héraclite de Edgar Poe, puisqu'il dit à propos d'Edgar Poe, « Ce n'est pas la leçon d'une mort héraclitéenne, d'une mort qui nous emporte au loin avec le courant comme un courant, c'est la leçon d'une mort immobile, d'une mort en profondeur, d'une mort qui demeure avec nous, près de nous, en nous. » Et il commence par cette rêverie d'Edgar Poe, c'est le deuxième chapitre de L'eau et les rêves, pour ensuite en venir à cet héraclitéisme, à ce devenir, à cette fluence, à cette valeur transitoire de l'eau, essentiellement transitoire, ce devenir fondamental, cette substance en devenir qui est l'eau. Et puis, il est héraclitéen aussi parce que on est dans la relativité des volumes, c'est-à-dire que Bachelard est le champion des détails immenses. Il est le champion de cet œil qui nous apprend qu'au fond, ce qui est vaste, c'est ce à quoi nous accordons l'attention la plus vaste. Ce qui est vaste n'y a pas de condition objective de la vastitude, si j'ose dire. La dimension de quelque chose ou d'un détail dépend de la qualité de l'impression et de l'attention qui s'en déduit.
Alors, je voulais juste faire droit à deux films qui m'ont été évoqués en fait par le texte sur la peine infinie de l'eau et ce rapport à l'eau et la mort. D'abord, Les quatre nuits d'un rêveur de Bresson, et qui commence au bord de la Seine avec l'actrice qui a envie de se jeter dans la Seine et évidemment le personnage de Jacques qui l'en empêche. Et un autre film qui...
Attendez, ne quittez pas, si j'ose dire, on va l'entendre tout de suite.
Si vous saviez combien de fois j'étais amoureux.
Comment ça, de qui?
De personne, d'un idéal, de la femme que je vois en rêve.
C'est idiot.
Je sais, Dieu m'envoie son ange pour me le dire et me le prouver. Pour me réconcilier avec moi-même.
Vous n'êtes pas tous les jours heureux?
Il y en a d'horribles, où il me semble que je ne serai plus jamais capable de vivre. Je vois les gens s'agiter avec une espèce de rage, pendant que mon rêve devient plat, rasoir. Et que je me rends compte que tout ce qui m'était si cher n'a jamais existé.
Et le second film tout aussi beau, c'est le film de Raoul Ruiz, L'éveillé du pont de l'Alma, qui lui aussi, et il y a évidemment un personnage d'Ophélie qui se noie, c'est la mère, elle se noie dans la Seine, et c'est deux des plus beaux films sur la rêverie, et en l'occurrence sur l'eau.
Voilà. Alors vous savez que Ophélie, dont vous parlez maintenant, est un personnage essentiel dans la poétique bachelardienne de l'eau, dans le rapport à l'eau, puisque Ophélie, c'est ce qu'il appelle Ophélie incarne. Ah, on va trop vite, parce que il faut d'abord comprendre quelque chose. C'est que l'imagination, on veut toujours, dit Bachelard, que l'imagination soit la faculté de former des images. Or, dit-il, elle est plutôt la faculté de déformer les images. Elle est surtout la faculté de nous libérer des images premières, de changer les images. Ce qui signifie deux choses. La première, c'est que l'imagination est aux antipodes de l'abstraction. D'une abstraction conceptuelle, éthérée, généralisante, si vous voulez, puisque l'imagination, c'est une transcendance impure, c'est une transcendance intramondaine, c'est-à-dire que c'est une sorte de divin sublunaire, c'est une tentative d'élévation qui s'appuie sur les lois de la pesanteur, c'est un voyage sans but, qui nous emmène ici et maintenant. Bon, donc l'imagination déploie les racines imaginaires du réel. L'imagination ne nous éloigne pas du monde. Hein. L'imagination, vous savez, c'est dans Le Soir des Rois, un moment quand Viola croit reconnaître son frère, elle dit « Prove true, imagination, oh prove true, sois vrai, mon imagination, sois vrai. En d'autres termes, rends-moi la vie, fais que mon rêve ne soit pas un mensonge, je n'ai que faire des mondes parallèles, seul compte l'imaginaire palpable où mon frère est vivant et que, faute de mieux, on appelle réalité. » Donc l'imagination n'est pas l'adversaire de la réalité. Et l'autre élément qu'il faut bien comprendre ici, parce que ça nous sort d'une définition traditionnelle ou banale de l'image, c'est que l'image, pour Bachelard, n'est pas représentation. Elle n'est même pas présentation de quelque chose. Elle est création. Elle est profondément création. Et on retrouve ici une intuition qui est celle, par exemple, de Frénofer dans Le chef-d'œuvre inconnu, quand il dit du propre de l'art qu'il n'est pas d'imiter la nature, mais de l'exprimer. Le travail de l'imagination est une façon de laisser parler le monde, de rendre au monde la parole dont le prive le goût de savoir, de comprendre, de connaître en l'occurrence, ou cette modalité du goût de connaître qui recouvre le monde des généralités abusives par lesquelles on prétendrait le disséquer. L'opération de Bachelard est plutôt de renouer avec ses images fondamentales. Et alors, le cas d'Ophélie est très intéressant. Ophélie, dit-il, hein, c'est l'eau comme élément désiré. Écoutez ce qu'il dit quand il parle d'Ophélie. L'eau, qui est la patrie des nymphes vivantes, est aussi la patrie des nymphes mortes. Elle est la vraie matière de la mort bien féminine. Dès la première scène entre Hamlet et Ophélie, Hamlet, suivant en cela la règle de la préparation littéraire du suicide, comme s'il était un devin qui présage le destin, sort de sa profonde rêverie en murmurant « Voici la belle Ophélie, nymphe en tes oraisons, souviens-toi de tous mes péchés. » Dès lors, ajoute Bachelard, Ophélie doit mourir pour les péchés d'autrui, elle doit mourir dans la rivière, doucement, sans éclat. Sa courte vie est déjà la vie d'une morte. Cette vie sans joie est-elle autre chose qu'une vaine attente, que le pauvre écho du monologue de Hamlet ? Ophélie n'est pas seulement un symbole. C'est plus que ça. Elle est le sentiment qu'au bord des eaux, tout est chevelure. Que les cheveux d'Ophélie se mêlant à l'eau signifient qu'au bord des eaux, tout est chevelure. Et Bachelard, à cet égard, rend raison de l'existence même du saule pleureur, par exemple. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça que sa poétique marche. C'est comme ça que ses associations se font. Et là, on comprend encore une fois ce qu'on disait d'improvisation tout à l'heure. Des associations, les associations ne sont pas arbitraires. Elles rendent raison d'une perception fondamentale du monde. Et Ophélie, par exemple, symbolise, oui, on peut parler d'un symbole, mais qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle symbolise l'union, par exemple, de la lune et des flots. Écoutez-le, comme tous les grands complexes poétisants, le complexe d'Ophélie peut monter jusqu'au niveau cosmique. Il symbolise alors une union de la lune et des flots. Il semble qu'un immense reflet flottant donne une image de tout un monde qui s'étiole et qui meurt.
Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys. Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles. On entend dans les bois lointains des halalies. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Les saules frissonnants pleurent sur son épaule, sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle. Elle éveille parfois dans un aune qui dort quelques nids d'où s'échappe un petit frisson d'aile. Un chant mystérieux tombe des astres d'or. Ô pâle Ophélia, belle comme la neige. Oui, tu mourus, enfant, par un fleuve emporté. C'est que les vents tombant des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. C'est qu'un souffle tordant ta grande chevelure à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits. Que ton cœur écoutait le chant de la nature dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits. C'est que la voix des mers folle, immense râle, brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, un pauvre fou, s'assit, muet, à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve, ô pauvre folle! Tu te fondais à lui comme une neige au feu, tes grandes visions étranglaient ta parole, et l'infini terrible effara ton œil bleu. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis, et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles, la blanche Ophélia flotter comme un grand lys.
Les rêveries devant l'eau profonde ou devant le fleuve qui passe prennent souvent la teinte de la mélancolie et elles nous ramènent au souvenir des êtres disparus. Dans un livre sans doute trop simple, la mythologie du Rhin, Le vieil écrivain français Saint-Ine rappelle un type de funérailles où l'on couchait le mort dans un tronc d'arbre, abandonné ensuite dans le courant du fleuve. Comment ne pas rapprocher cette lointaine coutume des légendes sur la barque des morts, légendes qui émeuvent encore toute la Bretagne. Comment ne pas penser à la barque de Caron? Mais ces mythologies et ces légendes, le poète ne leur donne-t-il pas une vie nouvelle, une vie naturelle, en marge de toute érudition? Ne revivons-nous pas tous les adieux de notre vie dans un seul grand vers comme celui de Baudelaire? Ô mort, vieux capitaine, il est temps, le vent l'ancre.
Voilà, alors presque insensiblement, on est passé de Ophélie à Caron. Et d'ailleurs, ils sont en couple hein, dans le chapitre.
Ils sont associés.
Ils sont associés.
C'est le chapitre 3 dans le chapitre de L'eau et les rêves, oui.
Et à un moment, donc, dans ce chapitre, juste une phrase, Bachelard dit que tout ce que la mort a de lourd, de lent, est aussi marqué par la figure de Caron.
Oui, et il continue, les barques chargées d'âmes sont toujours sur le point de sombrer. Étonnante image, précise-t-il, où l'on sent que la mort craint de mourir, où le noyé craint encore le naufrage. La mort est un voyage qui ne finit jamais, elle est une perspective infinie de danger. Si le poids qui surcharge la barque est si grand, c'est que les âmes sont fautives. La barque de Caron va toujours aux enfers, il n'y a pas de nautonnier du bonheur. Et avant d'en venir là, puisque Bachelard cite Baudelaire, la fin du, enfin, c'est la fin des Fleurs du Mal, hein. « Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre », donc il va chercher du nouveau, enfer ou ciel, qu'importe, hein, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Quelques pages plus tôt, dans « L'eau et les rêves », Bachelard dit « La mort est un voyage et le voyage est une mort. Partir, c'est mourir un peu. Mourir, c'est vraiment partir. Et l'on ne part bien, courageusement, nettement, qu'en suivant le fil de l'eau, le courant du large fleuve. » Tous les fleuves rejoignent le fleuve des morts. Il n'y a que cette mort qui soit fabuleuse. Il n'y a que ce départ qui soit une aventure. Un petit point, Paola, qui est important ici. Bachelard est un poète, est un philosophe, un philoète de l'eau, mais c'est l'eau qui ruisselle. C'est là qu'il est héraclitéen en diable. C'est l'eau qui ruisselle, c'est l'eau des fleuves. C'est l'eau qui passe, c'est l'eau qui trépasse, c'est l'eau qui coule. Ça n'est pas le poète de l'océan. Il le dit lui-même. Il dit ce
J'avais 30 ans la première fois que j'ai vu l'océan.
Voilà. C'est un. Et en cela, il est. C'est parce qu'il est tellurique, profondément tellurique, profondément qu'il a les pieds sur terre. Si vous voulez, il n'y a que les poètes des ruisseaux qui ont les pieds sur terre. Il faut avoir les pieds sur terre pour penser le ruisseau. L'océan n'est pas son élément. Le mobilisme de Bachelard, son aperception du monde, sa sensation du monde passe et en passe et trépasse. Par les ruisseaux, par les fleuves, certainement pas par les océans. Et il dit de lui-même d'ailleurs qu'il ne pourrait dire des océans que des banalités. D'ailleurs, quand il parle des océans, il ne fait que citer les autres. Il ne se fie pas à ce qu'il éprouve, comme si lui-même d'ailleurs tombait un instant sous le coup des images superficielles qu'il commence par dénoncer au début de L'eau et les rêves.
En début d'émission, vous aviez parlé de combinaisons entre les différents éléments, entre la terre, l'eau, ou le feu, l'air, etc. On retrouve ça dans le chapitre, en tout cas au nom, les eaux composées.
Oui, les eaux composées, c'est le chapitre 4, dont l'épigraphe est une phrase de Paul Claudel, « N'applique point à la vérité l'œil seul, mais tout cela sans réserve, qui est toi-même ». Et il commence ce chapitre, c'est un commencement, c'est un début qui est resté célèbre d'ailleurs, par des considérations sur l'imagination matérielle, l'imagination des quatre éléments. Il dit ceci, même si elle favorise un élément, elle aime à jouer avec les images de leur combinaison. Elle veut que son élément favori imprègne tout. Elle veut qu'il soit la substance de tout un monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il distingue ici dans les méthodes, c'est-à-dire les chemins de l'imagination, il opère ici une distinction qu'il avait annoncée au début de son livre, entre l'imagination formelle et l'imagination matérielle. Et cette différence, elle peut sembler absconse, abstruse, bizarroïde, inutile, au fond. Alors qu'elle est fondamentale. Parce que la différence entre l'imagination formelle et l'imagination matérielle, c'est la différence qu'il y a entre la surface et la profondeur. Il dit ceci, il faut qu'une cause du cœur devienne une cause formelle pour que l'œuvre ait la variété du verbe, la vie changeante de la lumière. Il dit ceci, toute œuvre poétique qui prend ses forces dans l'action vigilante d'une cause substantielle doit tout de même fleurir et se parer. En d'autres termes, l'imagination formelle, c'est l'ornement d'une imagination fondamentale qui est l'imagination matérielle. L'imagination formelle, c'est au fond ce que le sujet ajoute à ce que les éléments eux-mêmes imaginent, à ce que le monde lui-même imagine, à ces images qui se déploient dans leur autonomie, à ces images auxquelles il prétend rendre la parole dans l'eau et les rêves. L'imagination matérielle, c'est ce qu'il appelle les images directes de la matière. Il dit ces images ont un poids, elles sont un cœur. L'ambition de l'eau et les rêves, c'est, il la formule comme ça, c'est à l'imagination intime, intime, de ces forces végétantes et matérielles que nous voudrions prêter notre attention dans cet ouvrage. Détacher tous les suffixes de la beauté, s'évertuer à trouver derrière les images qui se cachent, aller à la racine même de la force imaginante. Et pour ça, Bachelard a besoin de penser la matière séparément de la forme. Mais en même temps, il est bien obligé de reconnaître que l'imagination formelle vient couronner ce que l'imagination matérielle met en œuvre. Méditer, dit-il dans sa perspective de profondeur, une matière est précisément le principe qui peut se désintéresser des formes. La matière n'est pas le simple déficit d'une activité formelle, elle reste elle-même en dépit de toute déformation, de tout morcellement. Vous savez, paradoxalement, c'est à Aristote ici que Bachelard implicitement, probablement, se réfère. Aristote, dont la matière est si bien tout ce dont le reste est dit qu'elle n'est elle-même rien de dissible. Et Bachelard reprend, au fond, implicitement cette définition à son compte. Il dit « La méditation de la matière éduque une imagination ouverte. L'image est une plante qui a besoin de terre et de ciel, de substance et de forme. Bref, l'image n'est pas un simple jeu formel. Il y a une nécessité de l'image qui est la nécessité même de l'activité poétique. Nécessité qui est ensuite recouverte par la nécessité ornementale d'une imagination formelle, de la rime, de tout ce qui vient ensuite dorer tout cela, recouvrir tout cela et finalement le rendre digeste à un lecteur.
Et qu'est-ce qui compose justement, quelles sont les matières qui composent l'eau composée ?
Alors, il y a plusieurs éléments, hein. Il y a, c'est le cas de le dire d'ailleurs, c'est là qu'il décrit ce qu'il appelle une chimie des poètes, où il décrit la dissolution des solides dans l'eau. C'est là aussi qu'il explique que l'imagination des éléments ne supporte pas une contradiction élémentaire, c'est-à-dire le mélange de l'eau, de la terre et du feu, et à plus forte raison, des quatre éléments, ce qu'on avait déjà dit tout à l'heure. Mais il prend des exemples d'associations. Les eaux composées, c'est par exemple l'eau accolée au feu, qu'on trouve, alors ici de Balzac, l'eau est un corps brûlé. Mais il aurait pu citer, vous savez qui ? Sauf qu'il ne le fait pas, parce qu'il ne l'avait pas lu, ou peut-être ne l'avait-il pas écrit à ce moment-là, Barthes. Et les mythologies, quand Barthes parle de l'eau de Javel, c'est ce qu'il dit pour qualifier l'eau de Javel dans les mythologies. Donc là, changement de décor, on est chez Saponide et détergent dans les mythologies de Roland Barthes, c'est tout à fait autre chose. Mais les mythologies sont un grand texte poétique, un grand texte créateur qui réarrange les éléments de façon inouïe pour les donner à sentir, pas pour s'en éloigner, pas pour délirer avec. Non, au contraire, pour les donner à sentir. Eh bien, dans les mythologies, Barthes, parlant de l'eau de Javel, parle d'un feu liquide. C'est la même chose, c'est la même démarche. Ici, Bachelard cite Balzac, c'est plus chic. Il dit « l'eau est un corps brûlé ». Il parle aussi de l'eau de vie. C'est la même chose pour associer le feu à l'eau. Mais il associe également l'eau à la nuit. Il dit ceci « parfois la pénétration est si profonde que pour l'imagination, les temps gardent en plein jour un peu de cette matière nocturne, un peu de ces ténèbres substantielles. » Il parle des peurs humides de la nuit. Mais les eaux composées, ça ne s'arrête pas là. Il compose les éléments entre eux. Il juxtapose les éléments, et parmi les éléments qu'il juxtapose, il y a l'eau et la terre. Qu'est-ce que ça donne, l'eau et la terre, Paola, chez Bachelard ? Souvenez-vous.
Je ne sais plus du tout, dites-moi.
La pâte.
Ah oui, là, il en parle dès le début.
Mais voilà, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que c'est très beau ce qu'il dit de la pâte. Il dit, la pâte, c'est un des schèmes fondamentaux du matérialisme. Et à quoi se réfère-t-il ? Alors, il se réfère à deux éléments pour comprendre la pâte. D'abord, l'expérience du pétrisseur, c'est-à-dire celui dont la main imagine. Une main qui se pose sur un autre corps que le sien, qui caresse cet autre corps, imagine ce corps. On retrouve ici les racines imaginaires, justement, de la réalité, de l'expérience la plus concrète qu'on peut faire de la réalité. Mais il parle de l'expérience du pétrisseur comme il parle des montres molles de Dali. Il analyse le visqueux. Mais le visqueux vécu, non pas le visqueux sartrien auquel il reproche son côté théâtral, parce qu'à la fin de L'être et le néant, enfin dans L'être et le néant, Sartre fait de très belles pages sur le visqueux, mais c'est un visqueux, dit Bachelard, qu'on regarde, qu'on se contente de regarder. Ça n'est pas le visqueux qu'on touche, ça n'est pas le visqueux qui se soumet à ce qu'il appelle la douceur de la rêverie pétrissante, les joies de la pâte amolie, la reconnaissance du pétrisseur, du rêveur. Au fond, ce que Bachelard déploie, c'est un pur matérialisme, c'est-à-dire, inévitablement, un matérialisme enchanté. Il faut être un matérialiste à la manque pour croire que le matérialisme est un désenchantement. Au contraire, l'une des grandes leçons de la poétique de Bachelard, c'est que le matérialisme est un réenchantement du monde.
Mais alors Raphaël, si on semble toucher dans ce chapitre des eaux composées à ce qu'il y a de plus riche dans l'imagination...
Au sens propre d'ailleurs, hein, au sens littéral, puisque c'est le mélange, c'est le mélange le plus riche, le plus consistant.
De l'imagination matérialisante, comment est-ce qu'on passe, s'il y a une progression dans les chapitres, à l'eau purificatrice, qui est, je crois, l'avant-dernier chapitre ou quelque chose comme ça?
Oui, alors vous avez enjambé pour cela
oui,
un
l'eau
chapitre.
Mais j'ai trouvé que cette eau composée, enfin, il y avait quelque chose de dialectique entre cette eau composée et cette eau purificatrice, des ablutions, etc.
Alors, la question que vous posez, Paola, permet de s'interroger sur un aspect tout à fait particulier du texte de Bachelard, qui est au fond la question de savoir si les huit chapitres sont interchangeables ou non. Et autant on aurait du mal à situer la critique de l'imagerie superficielle de l'eau qui se trouve au début du livre à un autre endroit que le début du livre, parce qu'on commence par le moins fort, autant on aurait du mal à penser cela, autant le chapitre sur l'eau maternelle et l'eau féminine me semble trouver sa place ailleurs que entre les eaux composées et la purification aquatique ou aqueuse. Avant d'en venir à la purification donc, que vous évoquez, un tout petit point, c'est très beau le chapitre 5, hein, parce que c'est là qu'il évoque l'idée que tout liquide est une eau, à commencer par le lait. L'eau est un lait dès qu'elle est chantée avec ferveur, dit-il. Et il parle du lait avant même la blancheur. Et il cite encore Claudel, qu'il aime tant, qui décrit le fleuve comme la liquéfaction de la substance de la terre, l'éruption de l'eau liquide enracinée au plus secret de ses replis, du lait sous la traction de l'océan qui tète. Et il cite ici Claudel comme il cite Novalis. Mais donc, il en vient ensuite à la pureté, à la purification. Et c'est là qu'il peut décrire justement l'eau comme une victoire. Après avoir longuement insisté sur l'eau mortifère, sur l'eau stagnante d'Edgar Poe, ou sur la mort fuyante, la mort ophélienne, la mort, le sentiment que près de l'eau tout devenait chevelure, à la façon des cheveux d'Ophélie ou des cheveux de Kirsten Dunst au début de Mélancolia. Donc tout ce qu'il peut dire de cette mort est remplacé en un sens par le fait que l'eau, c'est ce qu'il dit dans le chapitre 6, on peut charger l'eau de maléfices, on peut empoisonner l'eau, mais d'abord il ne faut pas le faire, c'est la raison pour laquelle Bachelard précise qu'il ne faut jamais uriner dans l'eau, très important. Ne pas uriner dans l'eau, vous ne pissez pas dans le fleuve, d'accord ? Parce que ce faisant, vous compromettez l'une des vocations de l'eau qui est, dit-il, la victoire de la fée sur le diable. C'est quand même ce texte est quand même extraordinaire quand on y pense. Ce texte est quand même insensé. Si on arrivait à en donner un tout petit peu la sensation à nos auditeurs, ce serait merveilleux. J'aimerais, Paola, avant qu'on continue, et qu'on s'arrête d'ailleurs, mais enfin il nous reste encore un petit moment, j'aimerais juste savoir ce que Carole entend par la victoire de la fée sur le diable.
Thank you.
voyez, Paola, que de l'improvisation de Carole, on peut improviser sur l'improvisation parce que on peut s'en tenir, on peut considérer par exemple que les premières notes sont première lecture, si vous voulez, ou lecture binaire. C'est la voix du diable qui est vaincue ensuite par la voix de la fée. Mais on peut aussi considérer que le diable a quelque chose de féerique dans sa façon de faire, et qu'au fond, c'est d'abord le combat du diable et de la fée, qui ensuite culmine dans la victoire de la fée, le moment où la fée l'emporte. Et deuxième lecture de l'improvisation de Carole, qui permettrait de comprendre ce que Bachelard dit du caractère, ce qu'il appelle le caractère éminemment actif de la substance. Il dit ceci: sur le thème dialectique de la pureté et de l'impureté de l'eau, on peut voir cette loi fondamentale de l'imagination matérielle agir dans les deux sens, ce qui est une garantie du caractère éminemment actif de la substance. Écoutez ça: une goutte d'eau pure suffit à purifier un océan, une goutte d'eau impure suffit à souiller un univers. Et dans cet examen des rêves de rénovation contenus dans une eau fraîche, Bachelard fait droit à la place du poison. Il y a une dialectique du poison et de la rénovation, de la jouvence et de la souillure. Et c'est une dialectique qui, dans ce chapitre, culmine dans la victoire de la fée sur le diable, c'est-à-dire de la jouvence sur l'empoisonnement, sur l'urine, sur la souillure, sur la saleté, sur l'immondice. Et comme par hasard, c'est là que de nouveau il cite Claudel en écho de la victoire de la fée sur le diable. Écoutez Claudel: si on creuse la terre, on trouve l'eau, le fond de la vasque sacrée autour de laquelle, rang sur rang, se presseraient les âmes altérées, serait donc occupé par un lac. Ce n'est pas ici le lieu d'insister sur l'immense symbolisme de l'eau qui signifie principalement le ciel.
Je suis un peu submergée parce que...
C'est le cas de le dire.
C'est ça, non, c'est tellement beau. Et puis, je suis restée encore un petit peu, désolée Raphaël, mais sur l'improvisation de Carole Beffa. Parce qu'à la fin, il me semblait vraiment voir le combat. Et puis à la fin, on avait l'impression de voir le diable expirer dans un dernier souffle. Donc, c'était vraiment impressionnant.
Mais c'est vrai que les paroles sont superflues souvent. Hein.
Oui, là surtout.
Il y a un moment où le bavard doit se taire et laisser la parole à la musique, non?
Oui, mais l'émission n'est pas finie, donc...
Elle est finie, Paola.
Elle est finie.
Elle est finie, Paola. Qu'est-ce qu'on fait? On lui laisse la parole, hein?
Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de plus sage.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la parole à Bachelard, puis à Carole.
L'eau, comme tous les éléments, donne prise à de multiples ambivalences, ou pour mieux dire, elle concrétise l'ambivalence qui vit au cœur de l'homme. Elle est, dans les beaux jours de la vie humaine, la substance de vie, elle est le lait de la terre. D'innombrables variations animent ce thème général de la maternité des eaux. Des références à l'alchimie pourraient ici être données sans fin. On écrirait aisément tout un livre, par exemple, en exposant les principes des eaux de jouvence. Mais là encore, comme dans le cas du complexe de Narcisse, il faudrait ne point se complaire dans l'image métaphorique. Il faudrait donner moins d'attention au mélodrame trop voyant du vieillard rajeuni. On restituerait alors à l'eau élémentaire, à l'image matérielle et cosmique de l'eau élémentaire, une force de conviction qui traverse tout le psychisme, allons du fond même de l'inconscient jusqu'aux satisfactions sensibles les plus claires. Et c'est ainsi que, justement, Paul Claudel bouscule toutes les métaphores superficielles en s'écriant dans les grandes odes: vos sources ne sont point des sources, l'élément même, la matière première, c'est la mer, je dis, qu'il me faut. Ainsi, dans le style de la psychanalyse, l'eau de jouvence est le symbole du retour au sein maternel. Elle est une marque, entre beaucoup d'autres, de la primitivité des images maternelles de l'eau. On retrouverait la même hiérarchie d'images si l'on étudiait les mythes de purification, si divers dans leur nuance, si semblables dans leur fond. Pour toutes ces raisons, nous nous croyons fondés à dire que l'eau est un véritable élément psychique, un élément qui amasse les images dans nos rêves comme dans nos pensées. un élément qui règne dans notre conscient comme dans notre inconscient. Un élément que nous aimons en nous et hors de nous. Une boisson et un filtre, une réalité et une puissance. En suivant les images de l'eau, le poète était assuré de trouver un élément de la poésie universelle.
Merci Paola, merci à tous et en particulier Carole Beffa dont les mélodies indivisibles mais impromptues nous ont accompagnés sans relâche pour notre plus grande joie et la vôtre, on l'espère. Merci à Pierrick Charles et Dimitris Capolan, nos camarades de la technique aujourd'hui, à Alice Ramon, à François Connac, notre réalisateur, à Georges Kless, notre bachelard, et à Gaston Bachelard dont la voix extraite des causeries se trouve dans un CD dont les références sont désormais disponibles sur notre site. Retrouvez cette émission sur internet à la page du Gai Savoir où vous attendent bibliographies et téléchargements ainsi que sur Facebook si le cœur vous en dit. Retrouvez-nous enfin dimanche prochain pour une traversée du Misanthrope de Molière. Rien de moins, attention, chef-d'œuvre donc. Dans l'intervalle, retrouvez les nouveaux chemins de la connaissance qui parleront de méchanceté toute la semaine de 10h à 11h sur France Culture, un vrai rôle de composition pour l'adorable équipe des chemins. À 17h sur France Culture, dans un instant, à lire et béir.